Je vais vous partager une petite exhortation que j'ai sur le cœur. On prend nos Bibles aux 2 Corinthiens. Je vais lire au chapitre 6, le verset 14, jusqu'au chapitre 7, le premier verset. 2 Corinthiens 6, verset 14. Alors, je fais la lecture. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Au travers de ce passage, le Seigneur nous révèle 3 choses. 3 choses qu'il désire. Il désire premièrement habiter avec nous, et en nous et au milieu de nous. Il désire nous accueillir avec affection. On trouve cela aussi dans Ésaïe 54:7. C'est-à-dire qu'il désire nous faire une place dans sa présence. Et bien qu'il soit le Dieu Tout-Puissant, comme on peut se l'imaginer, il veut aussi être un père pour nous, en faisant de nous des fils et des filles. Pas que des enfants de Dieu, mais bien des fils et des filles. Parce que vous savez, on devient enfant de Dieu lorsqu'on est de nouveau. Jean chapitre 1 verset 12. Mais on devient fils ou fille de Dieu lorsqu'on est conduit chaque jour par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Dieu, ce sont des promesses, on l'a lu, mais c'est aussi des désirs que Dieu a pour nous. Et si nous, on a aussi de tels désirs, voici donc notre exhortation de ce matin. Je relis le premier verset du chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et ces promesses ne datent pas du Nouveau Testament. Depuis la fondation du monde, Dieu a toujours eu le désir d'habiter au milieu des hommes, non pour son bien à lui, mais pour le bien de l'homme. Et Dieu désire aussi communiquer à l'homme l'essence même de sa nature, sa sainteté. On trouve à 3 reprises dans le livre Lévitique cette expression « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». Et dans tout le livre, à peu près, quasiment 100 fois, apparaissent le mot sainteté ou le mot saint. Et en lisant ce livre tout récemment, j'ai également pu constater que Dieu se préoccupait des moindres détails de la vie des gens de son peuple, et même de leur santé physique. Par exemple, il y a une grande partie dans ce livre consacrée aux règles d'hygiène, aux règles de propreté sur le lieu de vie que devaient avoir les Israélites. Et bien sûr, tout cela pour les garder d'attraper des maladies. Et Dieu dit par exemple à son peuple en Exode 15-26, « Si tu obéis à mes lois, je ne te frapperai d'aucune maladie, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et Jésus, en son temps, a guéri les malades, plusieurs malades. Mais à chaque fois, quand il avait l'occasion de rencontrer un malade seul à seul, tête à tête, il commençait par lui apporter une cure spirituelle avant de le guérir. Comme pour montrer que lui, comme son père, se préoccupe d'autant plus de l'état spirituel de l'homme. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que, du côté de Dieu, il a toujours ce désir de nous communiquer sa sainteté et de nous avoir toujours en bonne santé? Je pense que oui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de changement en lui, ni l'ombre de variation. Et du côté de l'homme, qu'en est-il? Eh bien, beaucoup ont fait leur choix. Les hommes font de grands pas dans les découvertes, dans la science, dans la santé, la médecine, pour rester en bonne santé. Mais dans ce qui est le domaine de la spiritualité, ils font des pas à reculons. Et pour nous, chrétiens, ce matin, qu'en est-il de cette devise, de cette promesse que Dieu nous donne? Il y a quelques jours, j'ai eu à réfléchir sur un constat que met en évidence la pandémie de coronavirus qu'on traverse aujourd'hui. Le coronavirus en particulier, mais la maladie en général. Et j'ai dû confronter la manière dont je cherche à me préserver d'attraper le coronavirus ou la maladie en général. J'ai dû confronter cela à la manière dont je cherche à me préserver spirituellement sain. En d'autres mots, je me suis posé la question de savoir, est-ce que je poursuis la sainteté de Dieu pour être saint, autant que je cherche par tous les moyens à être toujours en bonne santé? Il est vrai que le mot sainteté peut nous paraître un bien grand mot. Et lorsqu'on évoque la sainteté de Dieu, ça peut nous effrayer, ça peut nous faire peur. Mais la Bible nous dit que les exigences de la sainteté de Dieu ne sont pas inatteignables. Si la sainteté nous fait peur ou nous impressionne, demandons-nous aussi si la santé nous fait peur. Car la sainteté, c'est comme la santé. La santé, c'est avoir tout son corps en bon état physique. Et la sainteté, c'est avoir son esprit également en bon état spirituel. Lequel est le plus important? Et toujours dans le livre du Lévitique, on voit que le péché est comme la maladie. Et dans ce livre, Dieu donne des règles concernant la sainteté, pour ce qui est de l'esprit. Il donne des règles pour ce qui est de la santé pour le corps. La sainteté, pour résumer, pour le corps, c'est ce qui s'appelle la santé. Et la santé pour l'esprit, c'est ce qui s'appelle la sainteté. Autant nous désirons ne plus être malades et être toujours en bonne santé, autant nous devrions désirer être débarrassés de nos péchés. Parce que tolérer le péché, c'est comme tolérer la maladie. D'où le titre de mon message qui colle un peu avec l'actualité du moment. Appliquons les gestes barrières, non seulement contre le Covid-19, mais aussi contre le péché. Et à la place du Covid-19, on peut mettre tout ce qu'on veut comme maladie. Et l'exhortation de Paul au verset 1 du chapitre 7, je relis, « Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. » Vous êtes tous témoins comme moi de toutes les mesures que les grandes nations touchées par le corona mettent en place pour endiguer la propagation du virus. Et on déploie des moyens, on fait des campagnes de sensibilisation pour avoir les bons gestes barrières. Aux frontières, il y a des contrôles, il y a des tests, il faut que ce soit négatif pour entrer sur le territoire ou même pour sortir. Et à mon travail, avant de commencer la journée, quand j'allume l'ordinateur, un message s'affiche automatiquement. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Est-ce que tu as mis un masque? Beaucoup de checks à faire. Je dois valider avant de commencer à travailler. Et donc, en voyant tout ça, je me suis dit, waouh, tout ça pour ne pas attraper le Covid. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais quoi pour nous prémunir contre le péché? Quoi pour nous libérer de la culpabilité du péché? Quoi pour être complètement libre du péché? Quelles mesures prendre? Si seulement l'homme pouvait autant prendre au sérieux le péché comme le coronavirus. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblerait notre monde. Mais pourquoi il ne le fait pas? Eh bien parce qu'il juge que la pandémie du coronavirus menace ses intérêts à lui. Mais qu'en fait-il des intérêts de Dieu? Ceux d'avoir un monde meilleur, un monde comme un paradis sur terre, comme il avait prévu à sa création. Et donc chaque jour, me soumettant aux règles de gestes barrières, surtout ceux de se laver les mains, il faut le répéter dans la journée, toutes les 30 minutes, c'est ce qui est demandé au travail. Me soumettant donc à cette recommandation, il m'est venu la pensée de mon besoin constant en tant que chrétien d'aussi me désinfecter ou de me purifier, comme dit Paul, de tout ce qui me souille. Et ce, dans tous les contextes, que ce soit au travail, à la maison, à l'église, en route. Ce qui me souille, c'est ce qui sort de ma bouche. C'est-à-dire des paroles, de mauvaises paroles. Là où je dirige mes yeux, ce que je fais de mal, ce que je fais mûrir dans mes pensées, là où personne autre que moi n'a accès. Mais Dieu, il a accès à mes pensées. Ça peut être mon attitude envers quelqu'un. Et comme j'échoue au moins une fois à l'une de ces choses chaque jour, je me suis alors dit qu'à chaque fois que j'irai me désinfecter les mains, je ferai une prière. Soit en demandant à Dieu pardon pour quelque chose que j'aurais commise quelque temps plus tôt, soit en lui demandant de me garder, de tomber dans le péché. Voilà une petite mesure barrière pour nous que je vous propose pour obéir à l'exhortation de Paul. Vous savez, c'est comme les enfants qu'on laisse aller jouer dehors. Quand ils reviennent à la maison, on les lave les mains, on les désinfecte avant qu'ils prennent un repas. Ou pour des parents chrétiens qui envoient les enfants à l'école, quand l'enfant revient, il faut parfois faire un nettoyage des choses abjectes qu'on leur a apprises à l'école. Et pourquoi pas nous aussi? Qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit jeune ou ancien dans la foi, on a besoin de nous désinfecter régulièrement. Le message de ce matin, c'est un message qui est énormément répété dans les églises. Mais je veux le répéter encore ce matin pour nous, pour vous et moi. En tant que chrétiens, nous ne devons pas trimballer avec nous des péchés connus, non confessés. En d'autres mots, nous devons dépouiller notre conscience de toute souillure. Mais pour la vie chrétienne, la conscience se trouve très vite limitée et insuffisante. C'est par son esprit que Dieu veut nous révéler ce qui est péché, c'est-à-dire tout ce qui vient en dessous de ce qu'a été la vie de Christ. Et des exhortations comme celle de l'apôtre Paul qu'on vient de lire, il y en a beaucoup dans la Bible. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai constaté que celles que je m'efforce le plus à suivre, ce sont celles pour lesquelles j'ai vu ce que ça produisait dans la vie d'un frère ou d'une sœur qui les pratiquait. Je ne dis pas qu'il faut faire un tri. Il faut toutes les mettre en pratique. C'est juste que pour moi, involontairement, je priorise l'une par rapport à l'autre, à raison de ce que je vous ai dit, de ce que ça apporte dans la vie de quelqu'un qui pratique cette exhortation. Et c'est pour cela que j'aime regarder à un modèle, à ceux, aux frères, aux sœurs, qui sont loin dans la foi, loin devant par rapport à moi. J'aime regarder à des modèles. Et je pense que nous pouvons demander à Dieu de nous donner des modèles, des exemples d'hommes, de femmes, qui soient des modèles pour nous, en Christ, comme l'apôtre Paul. En Philippiens 3, 17, l'apôtre Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il ne parle pas parce qu'il serait le modèle, mais parce que lui-même cherche à imiter le modèle parfait de Christ. Un exemple de ce que nous devons imiter chez l'apôtre Paul. Il le dit en Actes 24, 16. Il dit ceci: « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » L'apôtre Paul dit qu'il s'efforce pour avoir une bonne conscience, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et soulignons bien le mot « s'efforcer ». On y reviendra. Ça veut dire que, aussitôt qu'il a conscience de quelque chose de pas correct, il le confesse immédiatement. Il demande pardon, et à Dieu, et à la personne offensée, le cas échéant. Ne laissons pas le péché se raidir dans nos vies, frères et sœurs. Il peut être très difficile à s'en défaire. Demandons pardon à ceux que nous avons blessés, aussitôt que nous le réalisons. N'allons pas nous coucher sans avoir réglé ou demandé pardon à nos conjoints ou même à nos enfants si nous les avons blessés par une parole, par un geste, par une attitude. Et demandons pardon à Dieu pour nos mauvaises pensées, nos mauvaises motivations et nos mauvais désirs. Je lis dans l'épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu nous pardonne de tous nos péchés dont nous avons conscience quand nous les confessons. Et c'est cela, marcher dans la lumière, reconnaître son péché, le confesser, s'en détourner et demander pardon. Mettre tout en ordre en demandant pardon aussitôt quand on s'en rend compte. La prochaine fois donc, quand vous irez vous désinfecter les mains, inspectez-vous, regardez aussi l'état de votre cœur, s'il n'y a rien à confesser. La promesse de Dieu pour nous, si nous vivons ainsi, c'est en 1 Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Vous savez, il y a des péchés dont on a conscience dans nos vies et il y en a d'autres dont on n'a absolument pas conscience. Et bien, ceux-là aussi, le Seigneur, si nous marchons dans la lumière, si nous jugeons ce que nous connaissons et confessons, le Seigneur se charge de pardonner aussi, même ce que nous ignorons. Le sang de son Fils nous purifiera même de nos péchés inconnus. Et c'est ce que dit Hébreux 9, 14 aussi. Le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. La Bible dit que la vie est dans le sang. Si le sang de Christ est si pur pour nous purifier, c'est que sa vie était tout aussi pure. Il était en effet toute sa vie sans péché, conscient ou inconscient. Il nous promet de nous mener à une vie comme la sienne, si nous lui faisons confiance. Mais pour cela, il a dû aller jusqu'à mourir à la croix pour nous démontrer son amour et nous donner la possibilité d'être remplis du Saint-Esprit pour nous conduire dans cette vie de victoire sur le péché. Je voudrais lire avec vous un petit passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, du verset 34 au verset 16. Et là, le Seigneur nous donne une belle illustration de comment doit être notre conscience en parlant de l'œil et de sa fonction. Alors je lis Luc 11, verset 34. « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui soit en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. L'œil, c'est la partie du corps qui, à longueur de journée, est constamment lavée par les larmes et aussi par les mouvements des paupières. Et lorsque nos yeux sont en bon état, on peut voir tout ce que nous avons sur le corps. S'il y a un problème quelque part, s'il y a une anomalie, une maladie insidieuse sur la peau, on peut tout voir. Si notre œil est en bon état, on peut voir là où on marche, par exemple. Et l'œil, c'est aussi une partie de notre corps très sensible. Ça veut dire hypersensible même. Et lorsque quelque chose nous rentre dans l'œil, une poussière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrête immédiatement ce qu'on est en train de faire. Aussi important soit la chose qu'on est en train de faire, dès qu'un truc rentre dans l'œil, on arrête tout de suite pour enlever la poussière, pour enlever ce qui est rentré dans l'œil. De même, quand quelque chose convainc, nous convainc dans notre conscience, appliquons le bon geste barrière. Si on laisse les poussières s'accumuler dans nos yeux, on va finir par devenir aveugle. De même, si on accumule des péchés non confessés, la lumière que Dieu a placée en chacun de nous, notre conscience, s'en trouvera pervertie, corrompue, désorienté, au point où on ne saura même plus distinguer le bien du mal. Il y a beaucoup qui s'efforcent à respecter toutes les mesures barrières recommandées, mais qui, par moments, baissent un peu leur garde et contractent la maladie. Alors, ils se mettent en quarantaine, ils vont faire des tests, et ils vont se faire soigner s'ils sont positifs. Voilà la solution à leurs problèmes pour retrouver la santé. Moi aussi, je m'efforce, comme l'apôtre Paul, à garder une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Mais j'avoue aussi que parfois, je baisse ma garde et je laisse passer des occasions de demander pardon. Mais la solution à mon problème pour retrouver une conscience sans reproche est là, en 1 Jean, dites 1 Jean 9, Dieu est fidèle. Pour me pardonner dès que je confesse mon péché. Je prends dès lors tous les moments où je me désinfecte les mains comme des occasions pour aussi désinfecter mon esprit de toute souillure. Et pas qu'à ces moments-là. Il y a d'autres moments aussi où je suis saisi, je suis convaincu par ma conscience de quelque chose qui n'est pas correct. J'attends pas d'aller me laver les mains pour demander pardon. Je le fais immédiatement. Et on a lu que l'apôtre Paul s'efforçait. C'est-à-dire, quelque part, il donnait de sa personne pour arriver à garder sa conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. On peut se demander, mais ça demande autant? Il faut vraiment faire un effort pour cela? Oui, il faut faire un effort. 2 Pierre 2 à 9 nous exhorte à faire tous nos efforts pour marcher à la manière dont Dieu nous appelle à marcher. Et oui, nous devons faire tous nos efforts dans la lutte contre le péché, contre la mort spirituelle. D'ailleurs, en Matthieu 11, 12, on lit ces paroles de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on vient à Christ, on se fait violence. En renonçant à tous les mensonges, les traditions humaines qu'on tenait pour centrales dans nos vies. Et plus on marche avec le Seigneur, plus on doit revoir certaines de nos habitudes, ancrées en nous depuis qu'on est tout petit, on doit les changer. On renonce peu à peu à nous-mêmes, en reniant à notre volonté, qui nous pousse à rechercher du plaisir dans les choses charnelles. Nous laissons le Seigneur changer notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Tout ça, c'est en quelque sorte accepter de se faire violence. Vous vous imaginez changer aussi facilement du jour au lendemain une habitude ou un sale caractère que nous aurons cultivé depuis qu'on est tout petit? Ça ne peut pas se faire aussi facilement. Il faut se faire violence. Et ça demande aussi, pour nous, un effort d'avoir enfin l'habitude d'aller demander pardon, de confesser nos fautes immédiatement. Ça nous demande des efforts pour arriver à ce genre de vie, à la repentance, à l'humiliation. Lorsqu'on a été, depuis tout petit, orgueilleux, toujours en train d'accuser les autres, et jamais soi-même, et toujours dans l'expectative, dans l'attente que ce sont les autres qui doivent venir nous demander pardon. Et oui, ça nous demande des efforts de changer le sens des choses, d'aller vers les autres demander pardon. Et si nous devons faire tous nos efforts, c'est aussi parce que le Seigneur veut nous faire entrer dans l'œuvre qu'il veut accomplir dans chacun de nous. Il ne veut pas que nous soyons passifs, mais actifs. Et juste des exemples dans les évangiles, on voit cela. Aux noces de Cana, Jésus a demandé aux serviteurs de remplir les récipients d'eau. Et lui s'est chargé de transformer l'eau en vin. Lors de la multiplication des pains, Jésus a demandé aux disciples de lui amener les pains et les poissons. Et lui, il les a multipliés. À la résurrection de Lazare, Jésus a demandé aux personnes qui étaient avec lui d'enlever la pierre qui fermait le tombeau. Et lui, il a ressuscité Lazare. À chaque fois, Jésus ne veut pas faire tout seul. Non pas qu'il ne veut pas que tout repose sur lui et que les autres aussi doivent faire leur part, doivent aussi travailler, mais il veut qu'on ait le sentiment de servir à quelque chose et ressentir la joie que lui ressent lorsqu'il arrive à changer quelque chose en nous. Il se charge toujours, ne l'oublions pas, de la partie la plus difficile et nous laisse la partie la plus facile. Nul doute qu'il pourrait faire tout seul. Le Seigneur, en un instant, en un claquement de doigts, il peut tous nous changer à 100% aujourd'hui, à son image, pour vivre tous les jours jusqu'à son retour. Il peut nous changer, mais pourquoi il ne le fait pas? Il attend le dernier moment. La Bible nous dit, c'est quand il reviendra que nous serons tous changés. S'il le faisait aujourd'hui, s'il nous changeait, sans que nous ayons à faire des efforts, s'il nous changeait en un instant, eh bien, je pense que nous ne mesurerions jamais ce que ça a dû lui coûter, lui, toute sa vie, de lutter contre le péché, pour ne pas pécher une seule fois. Parce que lui aussi a souffert, pour ne pas pécher, il a dû souffrir. Je relis une dernière fois l'exhortation que j'ai pour nous ce matin, au chapitre 7, au verset 1 de 2 Corinthiens. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Achevez notre sanctification, c'est bien qu'elle a commencé quelque part, à la croix de Jésus. Nous avons donc aussi à nous retrousser les manches. Pour tout ce qui est de notre ressort. Par la grâce de Dieu, pour mener à terme notre sanctification. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui fait le plus difficile. C'est Dieu qui nous sanctifie. Pour nous encourager à garder notre conscience sans tache et sans reproche, regardons nos péchés comme des infections dans notre esprit et mille fois plus dangereux que n'importe quel autre virus. Et demandons-nous si nous accepterions d'avoir une infection dans nos corps, le corona peut-être, ou autre chose. Et si la réponse à cette question c'est non, j'ai pas envie d'avoir le coronavirus ou autre maladie, alors, cherchons à avoir cette habitude de nous confesser et de demander immédiatement pardon à Dieu et à ceux que nous avons offensés. Ainsi, nous désinfectons notre esprit au risque de voir nos péchés devenir tenaces et être complètement plongés dans les ténèbres. Je vais prier et puis... Seigneur notre Dieu, je veux te rendre grâce pour cette parole que tu as mise dans mon cœur et qu'elle me travaille et qu'elle puisse aussi travailler mes frères et mes sœurs. Cette exhortation de l'apôtre Paul. Oui Seigneur, tu nous appelles à nous couper des souillures de ce monde Seigneur. Tu nous appelles à te regarder toi. Merci pour le moyen... de la confession et du pardon des fautes en Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix pour nous, et jour après jour, on peut venir te demander pardon du fond du cœur, Seigneur. Nous voulons pas utiliser, Seigneur, ta grâce comme un moyen, Seigneur, de laisser libre cours à toutes nos passions et de venir après te demander pardon. Mais nous voulons, Seigneur, regarder le péché comme une infection, la plus dangereuse, Seigneur, qui coupe l'homme de ta présence et qui le perd à jamais. Cependant, Seigneur, donne-nous aussi la sagesse de bien nous préserver des maladies autour de nous, de bien respecter les gestes barrières et de faire au mieux, Seigneur, pour être préservé de toutes les maladies. Merci parce que c'est toi qui nous gardes. Nos vies sont entre tes mains et nous voulons, Seigneur, confesser nos fautes. En sorte qu'il n'y ait plus rien, Seigneur, qui fasse entrave entre toi et nous, et que notre communion soit toujours maintenue, nuit et jour, Seigneur, avec toi et avec les frères et les sœurs. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as prévu au moyen de ton Fils pour nous. Te bénissons, Père, et puissions-nous, Seigneur, nous ouvrir à toi, et te laisser continuer cette belle œuvre qui a commencé en chacun de nous. Et ne pas seulement croiser les bras, mais être aussi radical contre le péché, et faire ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen.